Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent. Bienvenue à Terre de Femmes. Cette semaine, nous passons une heure complète avec une femme d'inspiration. Une femme qui a fait pleurer et rire par ses mots en nous transportant dans son univers romancé qui nous ressemble et qui nous rassemble. Actrice, femme littéraire, résiliente et philosophe. C'est avec un immense plaisir que je m'entretiens avec Francine Ruel, émouvante et généreuse. Mais avant tout, nous écoutons Comment de bord, Bay Window.
Bye.
Vous êtes actrice, écrivaine. Votre dernier ouvrage a surpris, ému et aussi aidé bon nombre de lecteurs. Il s'agit d'Anna et l'enfant vieillard. Bonjour et bienvenue, Madame Francine Ruel. Bienvenue à Terre de Femmes.
Merci beaucoup. C'est un peu gênant d'entendre tout ça.
qu'est-ce qui vous gêne, non? Vous êtes tout ça?
Oui, mais je ne sais pas si c'est très féminin, mais on a toujours l'impression qu'on n'en fait jamais assez.
Ah oui, c'est féminin.
On n'est pas rendu où on voudrait être rendu et tout. Puis des fois, quand j'entends ça, par contre, je sais pourquoi je suis fatiguée quand je me couche le soir. Je fais moi lent, ok, c'est correct.
Donc, avant d'écrire, parce que à peu près tout le monde a lu Anna et l'enfant vieillard, mais avant d'écrire, vous avez été actrice et comme ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu, on a l'impression, c'est comme si on avait oublié ce pan-là de votre vie, mais vous êtes quand même formée du Conservatoire d'art dramatique de Québec.
Oui, mais quand j'ai commencé ma carrière d'actrice, j'ai commencé à écrire en même temps. Fait que je l'ai toujours fait en parallèle. C'est pas venu après en disant je jouerai plus, puis il faut que je me trouve un sideline pour parler chinois.
Oui.
Alors j'ai toujours alterné, mais quand j'écrivais, j'ai commencé à écrire pour la télé, c'était toujours en attendant de jouer. Je suis pas le genre de femme à attendre que le téléphone sonne. C'est très difficile quand on est comédien ou acteur, actrice. Il faut que le téléphone sonne, soit pour passer des auditions, soit pour être pris dans un rôle. Mais en attendant, on fait quoi? Alors, c'est pas simple. Moi, j'ai été chanceuse parce que j'ai commencé à écrire, mais j'ai envie de dire par accident. Vraiment un accident de parcours. Mais il y a des beaux accidents dans la vie. J'aurais pu le refuser, puis je l'ai accepté. Mais c'était toujours en attendant, quoi. Mais non. Ça a été formidable. Et maintenant, je me rends compte que c'est un grand cadeau que la vie m'a donné. C'est-à-dire que... Parce qu'il y a des gens qui me disaient souvent, mais alors, quand est-ce que vous allez choisir entre actrice et auteur? Je disais, ben pourquoi? Est-ce qu'on peut pas être cultivateur, jouer du violon, puis aimer les échecs, mettons, ou le voyage, ou je sais pas quoi? On doit avoir la possibilité de faire plusieurs choses dans la vie. Mais pour moi, c'est bien parce que je veux jamais choisir, parce que la comédienne aide l'auteur à écrire les dialogues, entre autres, et l'auteur aide la comédienne à lui donner une petite leçon d'humilité en disant, regarde, ça, c'est ton rôle. Mais toi, t'es juste une infime partie dans cette longue saga ou cette histoire-là. Toi, t'es juste placé là. Alors, quand je vais t'apprendre avant qu'il y a d'autres choses qui se passent autour de toi, pour pas avoir cet égo de dire... je connais des comédiennes qui faisaient ça, moi, qui disaient, bon, voilà, le film ou l'histoire, c'est moi qui... Alors que c'était un personnage. Là.
Ah oui, d'accord.
Il faut avoir cette humilité-là quand on joue. On joue en équipe, on n'est pas toute seule, quoi. Alors,
oui,
on est avec d'autres personnages.
Ouais. Mais, parlant d'équipe, vous avez créé la Ligue nationale d'improvisation avec Claude Laroche. On oublie ça parce que c'est loin, mais vous étiez parmi les premières, non?
Oui, on n'a pas créé. C'est Robert Gravel, vraiment, qui a créé cette aventure folle dans laquelle il nous a amenés. Mais Claude Laroche, moi, on a été les premiers à faire la première improvisation.
Ah, OK, d'accord.
Le premier soir. Oui, c'est ça. Parce que c'est vraiment Robert Gravel qui a inventé. Moi, je jouais à l'époque avec lui et Dorothée Berryman dans une série pour enfants qui s'appelait La boîte à lettres. Et Robert nous en parlait régulièrement. J'ai envie d'une idée folle. On pourrait imiter les joueurs de hockey, machin, etc. Bon, dire qu'est-ce que les filles vont aller faire là-dedans, garde. On n'est pas joueurs de hockey pour eux. Puis les claques en caoutchouc.
Je me souviens de ça, là.
Fait qu'on essayait, c'était formidable parce qu'il y a beaucoup de monde qui essayait de dire à Robert, ben ça, on devrait enlever ça. Ça, tu devrais. Puis il disait, non. Ça va être ça la proposition du jeu. Puis on va se tenir à cette proposition-là. Ceux qui veulent embarquer, embarquent. Les autres, ben, tant pis. Et bon, il y a eu Yvan Ponton qui a fait le coach. Alors,
l'arbitre.
L'arbitre, merci. Qui a fait l'arbitre et on a trouvé deux coachs. Un qui était Pierre-Jean Cuérier, qui était le réalisateur de l'émission de télé dans laquelle Robert, moi et Dorothée jouions. Et puis l'autre, ça a été Michel Garneau qui est venu. Alors les bleus, les rouges au départ.
Ah oui.
Bon, on sait ce qui est arrivé après, quoi.
Ouais, quel souvenir formidable. Et vous avez aussi enseigné l'improvisation au cégep de Saint-Hyacinthe.
Oui. Saint-Hyacinthe, et j'ai fait aussi. À l'extérieur de Montréal, donc, parce que je veux le dire, je ne suis pas capable.
Saint-Jérôme?
Je vous ramène loin.
Hein.
ça fait pas mal d'années, ça. Et j'ai eu la chance d'enseigner en France aussi. J'ai fait partie de la première tournée, et Robert et moi, on donnait des ateliers en France. Ça a été formidable partout en France, sauf à Paris, parce qu'à Paris, eux, ils voulaient tout refaire les règlements. C'était épouvantable. On avait jamais... Heureusement, on a commencé par la tournée.
Oui.
Mais partout, on a eu des échanges extraordinaires, que ce soit au nord ou au sud, que ce soit à Marseille ou dans le nord de la France, un peu partout, à Lima. En tout cas, il y a eu des endroits extraordinaires. Mais à Paris, ils arrivaient tous avec leur metteur en scène. Mmh. Et on s'est rendu compte, et c'est le public qui nous l'a dit, et ils ont reçu des claques, parce que au lieu d'improviser, ils faisaient des extraits de leur spectacle.
Oh, OK.
Oui. Oui, oui,
c'est
oui.
étrange, ça. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Ça a cessé, finalement?
Ben, ça a été, ils ont été hués pas mal, parce que le public reconnaissait des extraits, puis ils voyaient bien qu'ils n'improvisaient pas et tout. Mais ils ont tout fait pour changer les règlements, eux, les Parisiens. C'était incroyable. Mais ça a été une aventure vraiment formidable, quand même.
Et vous avez aussi joué dans, beaucoup dans les téléséries, hein, plus qu'ailleurs, plus qu'au cinéma, ou c'était surtout ça, votre intérêt, peut-être?
Non, ben on va où on nous demande, quoi. C'est ça qui est important d'aller faire. Mais enseigner, pour moi aussi, c'était comme, si on revient un petit peu là-dessus, c'était extraordinaire. Jusqu'à la pandémie, là, j'enseignais à la Grande Bibliothèque, j'enseignais dans un pavillon des arts de Bishop dans mon village, dans les cantons de l'Est, pendant 9-10 ans. Puis j'ai enseigné à l'INIS dans les premières années, dans les 5 premières années, j'enseignais le dialogue. Mais pour moi, enseigner aussi, ça fait partie de notre travail. Puis je ne suis pas la seule à faire ça. Si on regarde au Québec, il n'y a pas beaucoup de comédiens qui ne sont que comédiens. Ouais. Mm-hmm. Ils sont soit metteurs en scène, soit ils écrivent, soit ils font de la musique, soit ils chantent aussi. Parce que le public, la province est petit, on fait le tour assez rapidement.
Oui.
Et les gens en demandent et en redemandent. Moi, c'est assez. On vient de finir quelque chose, puis ils nous demandent, bon, puis ça va être quoi le prochain livre? Mm-hmm. C'est quoi la prochaine pièce? Tandis de dire, moi je dis en blague, c'est parce que le livre, l'encre n'est pas chasse encore, là.
Oui.
On va la laisser chasser, puis après ça, on va en faire un autre. On va attendre un petit peu, laissez-nous le temps de respirer par le nez, là. Mais ça, c'est agréable aussi, là. C'est comme des beaux compliments parce qu'il y a une demande, quoi. Mais
ouais, bien
de devenir
sûr.
Multi. Être capable de faire beaucoup, beaucoup de choses, d'aller dans beaucoup de domaines connexes, ça enrichit aussi le métier de base, quoi.
Oui, et puis vous avez aussi gagné des prix, hein, on n'en parle pas souvent,
ouais,
mais...
Oui, quelques-uns,
mais oui, voilà, le prix Gémeaux pour... vous avez joué dans Scoop.
Dans Scoop, oui.
Et Gala Metro Star aussi, avec Diva.
Oui, il y en a eu 2-3 dans celui-là, fait que c'est pas mal. Non, c'est agréable. Puis en littérature aussi, en écriture, j'ai eu quelques prix aussi, mais c'est juste... Enfin, ça fait du bien, c'est agréable, c'est une jolie tape dans le dos. Là.
Oui.
Ça ne fait pas manger non plus, ça ne fait pas payer l'hypothèque, mais...
Non, mais c'est une reconnaissance de notre milieu quand même.
Oui, oui.
Mais restez avec nous, Mme Ruel, on arrête pour une pause musicale, puis on revient avec la femme littéraire.
Parfait.
You dress me up in a nurse's outfit. It rides and sticks to my thighs and my hips. You put me in a teacher's little denim skirt. Ruler and desk so I can make it hurt. But I keep you on your best behavior, honey. Dress me in leather, well, that's a little bit.
Nous écoutions Saint-Vincent Xavier. Nous sommes toujours en compagnie de Francine Ruel, écrivaine et actrice. Alors, on en a parlé dans le premier segment. En fait, vous avez, en même temps que vous étiez actrice, vous écriviez. Mais comme vous avez écrit beaucoup pour la télévision, on voyait pas les livres publiés. Puis à un moment donné, vous avez commencé à publier des livres. Et j'aimerais savoir votre rapport à l'écriture.
Ben, c'est l'envie d'écrire, j'ai envie de raconter des histoires. Je pense que c'est ça qui est très important. La première fois que j'ai envie d'écrire, j'avais 12 ans. Pas de modèle. Je dis souvent aux jeunes, ils sont chanceux de rencontrer des auteurs jeunesse dans les salons du livre, dans leurs écoles, en conférences un peu partout. Ils les connaissent. Moi, quand j'avais 12 ans, je lisais pas mal de littérature française. Pas de photos à l'arrière, en quatrième de couverture, ce qui fait que l'auteur, il n'y avait qu'un nom. On ne savait pas qui il était, on ne savait pas, puis on ne savait pas c'était quoi être un auteur. C'était comme très loin de nous, presque inaccessible, de dire c'est un bonze ou une madame incroyable qui a écrit un livre. Ça avait quelque chose de très mystérieux, de très précieux en même temps, de très particulier. Puis à 12 ans, j'avais envie d'écrire sur ma mère parce que je trouvais que ma mère avait une vie pas toujours facile et elle travaillait énormément. Je pense que la personne que je suis aujourd'hui, c'est à cause de ma mère qui a su se tenir debout, qui nous a appris à se tenir debout et qui avait énormément d'humour. Mais je suis contente de ne pas avoir écrit à 12 ans. Alors, parce que je suis contente d'avoir attendu toutes ces années, d'avoir été mère à mon tour pour comprendre un peu qu'est-ce que ma mère vivait. Mm-hmm. Je pense que c'est utile ça aussi.
Et vous avez écrit un livre pour elle aussi.
Oui, qui s'appelle « Ma mère est un flamant rose ». Oui. Mais il y a eu un déclic important. J'étais une grande lectrice. Moi, je suis tombée dans la lecture quand j'étais assez jeune et je m'en suis jamais relevée, fort heureusement pour moi.
Oui.
Et j'ai lu le conte de Monte-Cristo, qui a été un grand révélateur pour moi. Mais je n'en parlais pas autour de moi parce que, bon, j'étais pensionnaire, j'étais élevée par des bonnes sœurs et je pense pas qu'on dit ça très fort, qu'on vient de découvrir qu'être un auteur, c'est un peu être Dieu.
Oui.
C'est-à-dire qu'on a...
vous êtes les yeux, vous êtes la voix.
Sur nos personnages, on ne dit pas ça, on partage pas ça, quoi. Donc, ça a été, pour moi, comme un révélateur, mais j'ai mis ça de côté et je suis devenue comédienne parce que, pour être un auteur, je voyais vraiment pas comment commencer ça, comment y arriver, mais j'ai toujours été fascinée par les histoires. Et tant qu'il va y avoir des humains sur la Terre, je vais avoir envie de savoir comment un être humain on arrive à tuer, on arrive à aimer, on arrive à faire des gestes formidables
ou effrayants
dans la vie pour qu'on comprenne ça.
Oui.
Puis quand je me suis retrouvée en France après, avec une bourse après le conservatoire, pendant un an, j'ai commencé à écrire dans les cafés. Et c'est de là que ça vient. Je prenais des notes partout, des observations de ce que je voyais, etc. Et quand je suis rentrée au Québec après cette année à l'étranger, j'ai passé des auditions pour des émissions jeunesse. Et tout avait été distribué. Il y a un réalisateur qui m'a dit « On cherche des auteurs, vous écrivez pas ». J'ai fait « Oui, oui ». Je suis arrivée chez moi en disant « Je suis folle ». T'as jamais écrit de ta vie, c'est quoi ça ? Et on m'avait demandé, ce que je trouvais ça formidable, d'écrire pour une marionnette. C'était l'émission Minute.
Oh, intéressant. Ah oh, oui, je me souviens.
Ouais, J'ai fait mes classes avec Minute Momoute.
Est-ce que ça a été facile ou pas? Écrire pour une marionnette, c'est un défi, hein? Oui.
C'est un défi. Oui. Non, je pense que j'ai eu la naïveté de plonger là-dedans puis de m'essayer. C'était la France de ma mère, ça. Regarde, on ne sait pas tant qu'on n'a pas essayé. Parce que qu'est-ce qui peut arriver, c'est que ça ne marche pas. C'est tout. Fait que j'ai donné mes textes en disant, ben, OK, si vous n'aimez pas ça, tant pis. Mais on a redemandé tout le temps. Okay. C'est comme ça que ça s'est fait.
Ah, ben oui,
moi, mes classes viennent vraiment de la télé. Alors, toute une série d'émissions jeunesse. Après ça, j'ai écrit pour le théâtre. J'écris des chansons. Les chansons, j'avais commencé à en écrire dans des émissions jeunesse. Mm-hmm. J'ai fait un truc qui s'appelait Pop Citrouille.
Oui.
Et après Court-Circuit. Et on était, toutes les auteurs d'aujourd'hui, je pense il y a beaucoup d'auteurs qui écrivaient à l'époque là-dessus, mais quand ils voulaient avoir des chansons à l'intérieur des épisodes.
Oui.
Et personne ne voulait en faire. Alors, moi, je levais la main et disais non, moi, je vais essayer. Mais j'ai fait mes classes avec des gens exceptionnels, là.
Oui, j'imagine bien.
Les frères La Rochelle, j'ai travaillé avec eux, Jean-Marie Benoît, j'ai écrit avec Marie Bernard.
Ah oui.
Qui avait des mélodies exceptionnelles. Alors j'avais l'impression de... C'est un cadeau du ciel pour moi, ça.
Et c'est
alors
tout...
j'ai pu en écrire après, pour Louis Forestier, entre autres.
Ah oui, d'accord.
Claire Séguin, voilà.
OK, et c'est tout un pan, hein.
Oui,
ouais. C'est ça. C'est tout ce, comment je pourrais dire, ce paysage-là, ce terreau-là qui
oui.
vous a amené au livre.
Et oui, tranquillement.
Et aussi,
j'ai envie d'écrire pour la jeunesse. Alors, j'ai écrit deux livres jeunesse, après deux contes pour tous qui ont été faits au Musée des Beaux-Arts. Mais puis après, comme je dis en blague, ben, j'ai fait le saut et je me suis retrouvée en écriture adulte, pas 3X, mais 1X,
oui. Voilà. Et vous avez un sens d'observation assez extraordinaire. Je lisais, j'ai entendu dans une de vos entrevues, vous étiez capable de voir les taches sur une cravate d'un homme. Ouais. Vous avez un sens d'observation extraordinaire et c'est possiblement ça qui vous amène à nous transmettre des émotions aussi pures et justes. D'ailleurs, il y avait un lecteur qui vous avait dit, vous avez toujours le mot juste, Madame Ruelle. C'est ben, beau, ça, comme compliment.
Oui, la tache sur ma cravate, c'était à Paris que j'ai découvert ça. Mm. Et j'ai comme compris comment j'aimais écrire, c'est-à-dire d'un petit détail. J'explique souvent en conférence que bon, j'admire les auteurs qui sont capables d'écrire sur la guerre de 14-18. C'est si un sujet large et immense, c'est ça. Mais moi, je vais le faire, mais je vais faire le contraire. C'est-à-dire, je vais partir d'un bouton qui est tombé d'une épaulette oui. d'un soldat. J'ai besoin du petit objet, moi. Je vais oui. me rendre à la guerre 14-18. Mais j'ai besoin de concret. Je pense que la petite chose, la tâche, l'objet, c'est ça qui fait que je me rends à mon histoire. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je n'ai pas envie de l'expliquer non plus. C'est ce qui fait ce que je suis, quoi, comme auteur.
Oui.
Ce détail-là qu'on voit, les beaux compliments, quand j'ai écrit la saga sur le bonheur, c'est,
oui.
je ne sais pas comment tu parles, ils sont venus me dire, mon Dieu, qu'on a passé des belles soirées sur votre terrasse avec vous et vos amis, parce que les gens m'identifiaient beaucoup à Olivia, le personnage de la série sur le bonheur. Mais j'ai besoin de ce concret-là, moi. Mais je pense que c'est comme ça qu'on va chercher l'émotion.
Oui, tout à fait. Puis, en début d'émission, je disais que les sujets, c'est votre univers qui est romancé et qui nous ressemble et qui nous rassemble. Et le mot « rassemble » et « ressembler » est très important en littérature. Et vous êtes capable de nous transporter dans votre univers. Puis d'ailleurs, vous l'avez très bien fait avec Anna et l'enfant vieillard. Et on se reconnaît. On n'a pas besoin d'avoir vécu exactement ce que vous dépeignez, mais on embarque parce que vous avez... C'est ça, cette habileté-là, cette sensibilité-là et cette générosité de nous prendre et de nous soulever et on part avec vous.
Mais peut-être que l'écriture télévisuelle m'a appris ça, c'est-à-dire de partir de quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut toucher, de ne pas expliquer.
Mm-hmm.
C'est pour ça que même les deux livres que j'ai écrits qui auraient pu être des récits au jeu, qui était Anna et l'enfant vieillard et ma mère est un flamant rose,
oui.
je ne les ai pas fait au jeu.
Et pourquoi?
Parce que j'avais envie de personne. Non, parce que le jeu, on s'explique souvent. Et j'aime pas expliquer. Moi, je veux montrer. Je veux que le lecteur voit, ressente et après lui est capable de nommer. Si moi, je nomme d'abord, il va faire « Ah oui ».
Ah, d'accord.
il y a Dany Laferrière qui dit une phrase formidable que je donne beaucoup souvent à mes étudiants. Dany Laferrière, il dit dans un de ses livres, le journal d'un écrivain en pyjama, il dit tous les auteurs devraient tenir compte du cœur du lecteur, même s'il sait très bien que c'est avec sa tête qu'il lit.
Oui.
Mmh. Et je crois que c'est là qu'il faut aller, dans cette espèce de concret-là où la personne peut se situer dans un lieu avec d'autres personnes, avec elle peut toucher quelque façon que ce soit, par les yeux, par le cœur, par la peau, on peut toucher à ce qui est là et donc on le vit. Donc oui. Le travail de la pensée se fait après et non pas l'amener d'abord.
Et lorsque vous écrivez...
Je ressens ça. Moi, ça ne m'intéresse pas, ça. Je ressens ça.
Ah, d'accord.
D'écrire, je ressens ça. Mais de mettre un personnage qui vient découvrir quelque chose, c'est sûr que le lecteur est capable de dire « Ah, moi aussi, je ressens ça. » T'as mis à faire ce travail-là.
Oui, d'accord. Donc, vous nous faites travailler au lieu de travailler pour nous.
Ben, on travaille à deux. C'est un rendez-vous, je pense. L'écriture et la lecture d'un livre, c'est un rendez-vous qu'on se donne, quoi. Moi, je l'ai écrit, et puis pendant que vous lisez, je tourne les pages, quoi. Mm-hmm. Donc, c'est à vous à faire le reste après.
Bon, ben écoutez, parlant de travail d'équipe, vous restez avec nous. On va à la pause musicale, puis on revient, on continue. Merci.
Merci.
Vous écoutez Terre de femmes à Canal M, Marthe Saint-Laurent au microphone. Vous aimez nos émissions, vous pouvez les écouter sur Canal M, sur vusezvoix.com, sur marthesaintlaurent.com et en balado-diffusion. En deuxième partie de l'émission, Francine Ruel, émouvante et généreuse, cette femme d'inspiration demeure avec nous. De retour après la pause musicale.
Parce que t'entends les coups de fouet, les siècles d'esclavage, de peuples déracinés. Tu kiffes les voix black, un romantisme chant de coton. Est-ce que tu vois dans tes fantasmes, feu ne coulant plume et goudron? Ce n'est pas malicieux, c'est ignorant, mais ça ne me tente plus d'être poli ou d'être patiente. J'ai pas ta haine, je m'amore, négresse soumise au sourire jaune, mange tes stéréotypes, leave me the fuck alone. J'ai pas ta haine, je m'amore, négresse soumise. Sourire jaune, mange tes stéréotypes, leave me the fuck alone. Tu kiffes les voix black, parce que tu rêves de coups de fouet. Brune, blonde, for your plantation fantasy. Tu kiffes les voix black. Présenté aux parents, juste c'est ignorant. Mais ça ne me tente plus d'être poli ou d'être patient. J'ai pas ta herche, maman. Négresse soumise au sourire jaune. Mange tes stéréotypes, limite la francolone. J'suis pas ta herche, maman. Négresse soumise au sourire jaune. Mange tes stéréotypes, limite la francolone. Soumise au sourire jaune, mange tes stéréotypes, limite la francolone. J'suis pas ta herge, maman. Négresse soumise au sourire jaune, mange tes stéréotypes, limite la francolone. J'suis pas ta herge, maman. Soumise au sourire jaune, mange tes stéréotypes, élimine la francolone.
C'était Cécile Doux-Kengui, Aunt Jemima. Alors, nous sommes toujours avec notre invitée savoureuse, c'est formidable, moi, un parcours de vie exceptionnel, donc Francine Ruelle, émouvante et généreuse, cette femme d'inspiration. Alors, nous sommes rendus, après avoir touché, en fait, à la femme actrice, la femme littéraire, nous sommes rendus maintenant à la résilience, parce que je pense que ça fait partie de vous. Moi, ce qui m'impressionne, c'est quand je vois vos entrevues télé et je regarde la profondeur de vos yeux, ce calme-là, on entre, en fait, c'est comme si on entrait dans votre âme. Il y a une sérénité à travers tout ce que vous avez vécu, ce que vous racontez. Et moi, ça vient me chercher. Qu'est-ce que c'est pour vous, Madame Ruelle, la résilience?
Bien, c'est une grande question, je pense. Je sais pas. J'ai été élevée d'une drôle de façon. C'est-à-dire que je me suis retrouvée à 7 ans à dire, ben voilà, ma vie, c'est ça, puis il faut que je m'adapte. Mon père est parti de la maison. Ma sœur aînée avait 8 ans. Et le bébé de moi, on était 5 filles. Et ma mère s'est retrouvée à 32 ans seule avec 5 enfants sur les bras.
Oui.
Elle travaillait sans arrêt et tout. Et bon, à partir de là, on était pensionnaire l'année chez les bonnes sœurs parce qu'il fallait que maman travaille pour nous élever. Et l'été, on était dans une famille sur une petite ferme, une fermette près de Québec. Et c'était comme on n'avait pas le choix. C'est-à-dire... Oui. C'était ça, notre nouvelle vie. Alors, j'ai appris toute ma vie à m'adapter, tout le temps à dire, ben ah, c'est pas ça, ça va être ça à la place. OK, c'est correct. Et bon, sur les 5 filles, je pense qu'il y en a une seule qui a eu beaucoup de difficultés avec ça. Les autres ont passé à travers. Et on a ça chez nous, de dire comme, ben OK, il pleut, bon, OK, on va faire avec. Il neige, il fait froid, il fait chaud, ben voilà, c'est ça.
Avez-vous l'impression... Excusez-moi de vous couper. Avez-vous l'impression c'est de faire du beau avec du laid ou du moche ou de l'ordinaire?
Ben je pense que oui. Il y a comme ben ma mère avait beaucoup énormément d'humour. Elle aurait pu être cette femme triste, dure.
Oui.
Puis comme beaucoup de femmes quand ils sont laissés de traiter le père du gros chien sale.
Oui.
Mais ma mère a jamais fait ça. Ma mère avait une phrase incroyable. Elle parlait de mon père puis elle disait c'est adorable inconscient.
Ah oui.
Alors c'était formidable parce que
un peu sarcastique quand même.
Ouais. Et ça nous a pas amener la haine ou la colère, non. Ou de vouloir régler à tout prix, et puis d'être toujours frustré ou oui. Parce qu'on a été perdant dans notre vie d'enfance, ben on n'a pas été si perdant que ça parce qu'on a appris à se débrouiller, on a appris à tricoter, à faire la cuisine, à faire avec ce qu'on avait, quoi. Oui. Et ça c'est un cadeau que la vie et ma mère surtout nous a donné qui est tellement précieux parce que c'est la façon de s'adapter.
Oui.
Alors peut-être que ce que j'ai vécu avec mon fils, cette résilience que j'ai aujourd'hui, oui. Ben c'est parce que j'ai fait « OK, c'est ça qui arrive, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ».
Oui, c'est ça, la capacité.
Je ne suis pas le genre à me laisser abattre. J'ai des grands moments de découragement, ça c'est sûr, mais
oui.
Je ne suis pas le genre à me laisser abattre.
Mm-hmm.
Et je suis une indécrottable optimiste. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose, qu'on va y arriver, puis qu'on peut faire quelque chose. Ou c'est dangereux, d'ailleurs, de trouver des solutions tout le temps.
Oui.
Ça, c'est très dangereux.
Et d'ailleurs, en voulant garder à tout prix, justement, cet optimisme-là de dire que quelque chose de beau, de mieux qui s'en vient, votre fils est en chambre maintenant, est sorti de la rue, il est en chambre depuis le 18 août.
Ouais, c'est fragile.
Oui.
Ça lui appartient maintenant, là. Moi, j'ai mm-hmm. juste été le lien qui l'a amené à cette petite chambre-là, parce qu'il voulait un appartement, puis c'est pas simple d'avoir un appartement. On sait comment ça fonctionne de nos jours.
Oui.
Que c'est complexe, là, puis il n'y en a pas des loyers modiques, puis bon, la mairesse en promet, mais c'est pas fait encore, là.
Oui.
Fait qu'en attendant, j'ai dit, ben, pourquoi tu sais pas d'aller en chambre, on va essayer de voir ce qu'on peut trouver, puis il y a quelqu'un qui l'a aidé, on a trouvé, puis bon, voilà. À partir de maintenant, c'est lui qu'il faut qu'il s'organise.
Est-ce...
Pas loin, mais je trouve pas toutes les solutions. En tout cas, j'ai appris à pas trouver toutes les
oui.
solutions. Parce que j'ai consulté, parce que je dois être ces mères qui aiment trop, là,
oui.
qui en font trop, plutôt. Mm-hmm. Et qui veulent trouver des solutions, et c'est pas la bonne façon de faire.
Non, ben en fait, c'est normal aussi, quand on est mère, on a quand même porté cet enfant-là pendant 9 mois.
Ouais.
On veut qu'il soit heureux tout le temps, on veut pas qu'il vive ce que nous, on a vécu, donc on essaie de l'épargner, puis en fait, effectivement, ouais. c'est une grave erreur, mais je pense que c'est un instinct maternel qui est normal, après, il faut apprendre à vivre autrement. Est-ce que vous croyez que le fait qu'il ait lu votre livre, ça ait eu une incidence sur son choix de laisser la rue?
Oui, je crois que oui. Ben, il y a trois choses, je crois. Il y a d'abord le livre, et on sait maintenant, on ne peut pas l'annoncer officiellement, mais il y a une maison de production qui est en train de travailler sur l'écriture mm-hmm. d'une série qui va être faite,
super.
Qui va être diffusée l'année prochaine en principe. Et ça, il a participé à ça. Parce que quand il a lu mon roman, je lui ai dit, dis-moi ce que tu en as pensé, qu'est-ce qui t'a touché, qu'est-ce qui t'a heurté, y a-tu des choses que tu n'as pas aimées du tout? Regarde, je suis prête à entendre ta version puis des choses de toi. Parce que quand tout le temps que je l'écrivais, j'avais pas de ses nouvelles. J'étais presque 8 mois sans avoir de ses nouvelles.
Oh, ça, c'est
et je pouvais pas lui demander la permission de parler de ce qu'on appelle, nous, l'accident, parce que mon fils a été victime de...
Oui.
d'une agression très grave, et c'est de là qu'a tout découlé, presque. Et avec la série, c'est comme s'il s'est réapproprié sa vie. C'est-à-dire qu'il a donné toute sa version à lui de cet accident-là,
oui.
de son parcours, des moments creux, difficiles, de la chute, la descente aux enfers, et de sa réinsertion tranquillement, il l'a fait avec le scénariste et son recherchiste.
Oui.
Qui fait que, vraiment, j'ai l'impression qu'il s'est réapproprié son histoire.
C'est
et ça
génial.
Lui a fait énormément de bien.
Oui.
Et l'autre chose, la troisième chose, c'est qu'il s'était promis cette année de ne pas passer un autre hiver dans la rue.
Ça aurait été son 7e, hein, c'est ça?
Oui. C'est mm-hmm. incroyable, là. 7
oui.
ans. Hein,
oui, 7 ans, c'est long.
C'est fou.
Oui.
Et les gens pensent que... je pense qu'il faut être très courageux pour aller là.
Oui.
Des fois, je dis à des gens, est-ce que tu irais jusque-là, toi? Moi, j'irais pas jusque-là. Moi, je serais pas capable. Je serais pas capable, je trouverais, je sais pas quoi, une solution, un truc, mais je vivrais pas dans la rue.
Et à quoi on s'accroche, Mme Ruelle, quand on est dans l'épreuve? On s'accroche à quoi?
À ce qu'on peut, je pense, à ce qu'il y a devant nous, à... On se fait aider, surtout, je pense. C'est ça, moi, qui m'a sauvé la vie.
Oui,
si je n'étais pas aidée, je serais encore au même point, je crois.
Mm-hmm.
J'ai été en thérapie pendant presque plus de 2 ans. avec une femme formidable qui a répété les mêmes affaires pendant 2 ans, dans la tête puis dans le cœur, puis je suis capable de les prononcer à mon tour, puis et qui m'a répété essentiellement une chose. C'est un adulte, redonnez-lui sa vie et tenter de reprendre la vôtre.
Oui.
Elle a répété ça ad nauseum.
Okay.
Et un jour, j'ai fait, mais elle a raison.
Vous avez, ça a rentré,
c'est pas ma vie.
Oui.
Je prends des décisions à sa place. C'est pas les bonnes, ça marche pas. Il y en a pas une qui marche. Il est défait, il est détruit, il en veut pas. Il fait le contraire. Ça m'a pris du temps avant de dire, ben garde, c'est pas les bonnes décisions là.
Oui.
Donc à partir de maintenant, c'est ce que j'ai annoncé à mon fils, à partir de maintenant, ben garde, j'en prends plus aucune. C'est toi qui vas prendre tes décisions. Ça va être les bonnes à ce moment-là, parce que c'est toi qui vas les avoir prises.
Et avez-vous l'impression que pendant cette période-là où vous avez tenté de l'aider, votre vie est restée un peu comme en suspens?
Ben ma vie est en oui et non, parce que j'ai continué à écrire. Les gens font le lien maintenant en me disant, oh my God, t'as écrit 4 livres sur le bonheur en même temps que ça. Je dis ouais.
Oui, ouais. Comment vous avez fait?
Je ne sais pas. Je me suis assise parce qu'il fallait que je vive. Alors, je me suis assise devant mon ordinateur et j'ai écrit quoi? Une histoire d'espoir, une histoire drôle, une histoire qui fait du bien.
Oui.
Parce que j'avais pas envie de me laisser couler, quoi, là-dedans. Oui.
Et est-ce que vous avez l'impression que vous êtes perdu un peu dans le travail ou
Un peu, beaucoup,
hein?
Vous
êtes dardé dans le travail.
Oui, oui.
Oui, carrément.
Mais parce qu'il faut s'accrocher à n'importe quoi.
Ouais.
Parce qu'autrement, c'est tellement décourageant. Puis même maintenant, les gens me disent, « Waouh, il est sorti de la rue. » Je fais, « Oui. » Les gens disent, « Voyons, t'es pas plus contente que ça. » Oui, je suis ravie.
Mais il y a encore la crainte.
Je suis au plafond parce que j'ai été déçue tellement de fois qu'on va attendre de voir si ça dure, si ça tient. Mais c'est sa vie. Alors, il en fait ce qu'il veut. Le travail a été beaucoup pour moi. Je pense que c'est ça, la résilience. D'arriver à accepter les choses. De dire, cet enfant-là n'a pas le même rythme que moi.
Oui.
N'a pas les mêmes vues que moi. Et il ne prend pas les mêmes avenues ou les chemins de traverse que moi j'ai pris. Il prend les siens.
Oui.
Et ça, c'est ça qui fait peur aux parents, je crois. Quand on voit nos enfants s'en aller vers une tangente, là, puis on fait... Oh my God, qu'est-ce qu'il est en train de faire là?
Oui, oui.
Où est-ce qu'il s'en va? On connaît les dangers, nous, on a vécu, et puis j'ai quand même 72 ans, là. De dire, hey, il s'en va où, là? Il fait quoi?
Oui, c'est pas le bon chemin.
C'est là qu'il veut aller.
Mm-hmm. Ben, c'est
et
beau,
de
ça.
Là, il va sortir quelque chose de formidable ou ça va s'arrêter là. Il faut que j'accepte ça.
Oui. Ben, c'est une belle définition de la résilience et ça me prouve que vous êtes vraiment résiliente. Restez avec nous, Francine Ruelle. On poursuit tout de suite après la chanson.
Thank you. une seule guérison. L'homme qui pleure donnerait le beurre, l'argent du beurre, les fruits de son labeur et les clés du bonheur. Il donnerait ses souvenirs, le goût des lèvres, l'arôme du pain qui lève, le pain, le vin, l'amour et l'avenir, pour guérir de ce désir fugace qui tant lui fit perdre la face pour une agace garce de passage alors qu'il n'avait pas l'âge légal, létal pour mourir d'amour. Il n'a bavé plus qu'à son tour dans la cour des soupirants adolescents. Dire qu'enfant, il voulait tant voir à travers les vêtements, voir ce qu'elle voulait dire au juste maman quand elle disait qu'il verra bien quand il sera grand. En attendant, ben, fini le placotage, sois patient, car patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Parenthèse, j'ai beau avoir vieilli, j'ai toujours pas compris ce que le nid vient faire ici. Parenthèse, ni en quoi c'est si dur de faire son nid, c'est à la portée de n'importe qui que je dis. Du lion, du rat, du chien, du chat, des vaches naines aux sales hyènes. Concevoir, ça se conçoit, pas besoin d'être Einstein ou DSK pour ça, franchement. Ça arrive, elle vient, il vient, il s'endort, elle repart. Mais l'espoir, lui, reste collé au corps. L'espoir de plus, d'accomplir plus. L'espoir du minus déçu qui cherche entre les cuisses les coulisses du paradis perdu. Et puis voilà que maman dit que c'est toute une affaire, les enfants, qu'il faut concilier travail et famille, qu'elle n'a pas vécu sa vie de jeune fille et qu'elle doit quand même penser à elle de temps en temps. Alors, pendant qu'elle y pense, papa se demande encore pourquoi elle y tient tant maintenant aux enfants. Pour n'avoir pris garde, pour n'avoir su monter la garde, pour avoir la garde de ses enfants. L'homme qui pleure donne le beurre, l'argent du beurre, les fruits du labeur et les clés du bonheur. Les clés sous le paillasson, clés du char, clés du chalet, du compte en banque, de la maison. Puis il s'enferme entre quatre murs et larmes à gauche.
C'était Ivy, l'espoir inguérissable. Ce qui nous amène à la dernière partie de l'émission. Alors nous sommes toujours en compagnie de Francine Ruel, femme philosophe. Madame Ruel, après tout ce qu'on a discuté depuis 45 minutes, écoutez, ça nous amène à, évidemment, votre façon nouvelle de voir la vie. Moi, je vois beaucoup de philosophie dans tout ça. En fait, ça vient de votre mère, vous expliquiez tantôt.
Ben, je ne suis pas une femme qui a des théories, des façons de faire. Je pense que j'y vais d'instinct, quoi. Et sans m'en rendre compte, dans toute l'écriture que j'ai faite, c'est des gens qui venaient me dire « Ah, waouh, mon Dieu, ça m'a tellement fait rire, ça m'a tellement fait de bien. » Moi, je raconte une histoire. Je pense que les auteurs, on a un autre sens, un sens supplémentaire, un sixième sens, qui fait qu'on voit des choses que le lecteur lambda ne voit pas. Mm-hmm. Et c'est pour ceux qui lisent puis qui écrivent pas. Alors peut-être que nous, on est là pour aller chercher un petit côté qui est caché ou quelque chose, mais je travaille beaucoup d'instinct. Je crois pas, j'ai aucune théorie pour dire oui, ben voilà, dans la vie, on devrait agir de cette mm-hmm. façon, on devrait faire. La vie vient de me montrer à coups de pied ou derrière que non, c'est pas comme ça. Puis quand on pense qu'on est en haut, on tombe. Puis quand on pense qu'on détient quelque chose, on tombe aussi.
Oui.
Je pense que la période présentement qui est très difficile pour tout le monde, cette pandémie qui finit plus,
oui.
Ma région, jeudi, là, nous, on tombe en zone rouge, alors que oui. Tout le monde fait super attention et tout. Fait que c'est à recommencer encore un peu. Je pense que c'est ça, la vie. On recommence tout le temps, tout le temps, tout le temps. On peut pas s'asseoir sur nos lauriers. On peut pas prendre pour acquis ce qu'il y a là.
Mm-hmm.
Il faut faire avec. C'est tout. C'est
ouais.
tout. Et je suis capable de m'adapter. Fait comme moi, je n'ai pas été trop plaindre pendant la pandémie parce que je n'étais pas dans un trois pièces à sept personnes qui se marchaient ses pieds, pas de balcon. Là. Mm-hmm. Moi, je vis à la campagne.
Oui, avec l'air pur et la grandeur.
Je peux aller marcher dehors, puis à travers les chevreuils sur mon terrain. Puis mm-hmm. La seule affaire, j'ai appris que j'étais vieille. Ça m'a rentré dedans, par exemple. Ça me fait rien d'avancer en âge, mais je veux jamais devenir vieille.
Oui, mais, ouais.
Ça, je veux pas ça. Je vais lutter contre ça jusqu'à la fin. Là.
Mais je pense que la vieillesse, c'est beaucoup dans la tête.
Oui.
Pour oui, moi.
Ils nous ont annoncé qu'on l'était, qu'on n'avait pas juste un âge.
Oui, à travers les messages.
On avait un âge vulnérable.
Voilà. Oui, bon. Ben, moi, ce que je vois à travers le mot philosophe, c'est toujours la recherche de la vérité, puis cultiver la sagesse. Et en ce sens-là, la façon dont vous vivez et ce que vous transmettez dans vos ouvrages, les thèmes que vous traitez, c'est-à-dire vous parlez de trahison, de compétence d'être mère. Tantôt, vous disiez, moi, je regarde comment l'homme vit, je pars du bouton et je l'amène. Donc, pour moi, c'est ça la philosophie. En fait, c'est d'observer, c'est de chercher la vérité puis d'essayer de trouver une sagesse et un sens à tout ce qu'on vit.
Moi, je triche pas. J'ai jamais triché. Les gens disent souvent, mon Dieu, comment ça que vous êtes abordable comme ça, vous? Ben, moi, j'ai pas de personnage actrice et je n'ai pas de personnage auteur. Je fais des métiers qui sont différents des vôtres. C'est tout. C'est tout.
Oui.
Alors, c'est de cette façon-là que j'y arrive, je pense. Et bon, quand les bonnes filles se penchent sur notre berceau, quand on est bébé, ils m'ont pas donné la grandeur, je l'ai pas eu. Moi, il était backorder, hein? Puis la beauté non plus. Fait qu'ils m'ont donné un cadeau formidable qui est sans fin, qui est épuisant, qui s'appelle la curiosité.
Oui.
Alors, tant que je vais avoir cette curiosité-là, c'est ça qui va me faire vivre pour essayer de comprendre. Moi, je suis le genre de personne à dire. Quelqu'un va dire, mon Dieu, il est bien bête. Il est bien bête, lui. Je fais battant. Peut-être qu'il a passé une journée difficile. Peut-être que je vais aller fouiller les couches en dessous. Peut-être qu'il vient d'apprendre une super mauvaise nouvelle. On ne le sait pas. Peut-être.
Oui.
Je suis près de l'humain. Moi, l'être humain me fascine dans ses comportements. Pourquoi il va là? Pourquoi il fait ça? Et c'est ça qui m'a amené au métier d'actrice aussi. C'est d'aller d'être un personnage multidimensionnel et non pas bon, méchant, gentil, cute, etc. Plus il y a de couches, plus c'est intéressant. Alors, dans mon métier d'auteur, c'est ça que j'aime aller chercher. Et on parle philosophie. Là, je suis en train peut-être d'écrire le roman le plus philosophique, entre guillemets. Là.
Ah oui?
Je commence un nouveau roman que j'ai appelé, c'est un titre de travail, qui s'appelle Le promeneur de chèvres.
Oh, c'est beau.
Oui, on s'en va ailleurs, là, et on est à la campagne beaucoup. Et ce que je trouve dommage à notre époque, c'est que les vieux ne donneront pas aux jeunes leur métier, leur façon de faire, leurs outils. Parce qu'ils ont existé, et nos arrière-grands-parents, nos parents ont appris des choses qu'ils devraient nous donner. Il y a un roman qui s'appelle Les Scorta. Il y a quelque chose avant, c'est de Laurent Gaudet qui a eu le prix Goncourt cette année-là avec ce roman-là. Et les Scorta, c'est une famille, il y a un mystère dans cette famille-là, mais il y a des choses qui m'avaient tellement troublée, c'est que quelqu'un dit au moment, juste avant de mourir, j'aimerais ça que toute ma famille vous donniez à mes enfants tout ce que vous connaissez de mieux.
Mm-hmm.
Vous savez coudre, vous savez cuisiner, vous savez faire des meubles, vous savez faire tel truc. Je veux que vous appreniez ça à mes enfants, c'est la plus grande richesse au monde.
Et est-ce que
c'est
ça?
Plus là-dessus que je me base pour écrire une histoire. Un vieil homme qui va donner une façon de vivre, une façon de faire à un jeune garçon de 29 ans.
Et est-ce qu'on peut attendre ce roman-là en 21?
En 21, mettons 21. OK, en 21, c'est sûr. Non, non, c'est pour l'automne prochain, là, si Dieu le veut, là. J'arrive à écrire. Et
ben, merci de nous partager, on peut appeler ça un scoop. Hein?
oui, on peut appeler ça comme ça.
Dans vos actualités, Anna et l'enfant vieillard sera disponible en audio-livre chez Vues et Voix. Est-ce que vous avez la date précise?
Oui, le 17 novembre.
D'accord, mais je vous remercie infiniment, Francine Ruel, d'avoir été avec nous. Vous êtes vraiment une femme extraordinaire à découvrir, à écouter, à observer. Donc, merci.
Arrêtez, je vais finir par vous croire.
Ah, vous pouvez me croire.
Mais merci, Alain.
Merci infiniment. Merci aussi à l'équipe sans qui cette émission ne serait pas possible. Catherine Bourderon à la recherche, Mathieu Tessier à la mise en onde et Louis Garon, chef d'antenne à Canal M. Un merci particulier, évidemment, à vous qui revenez chaque semaine pour nous écouter. Je vous laisse sur une magnifique citation de mon invitée, Francine Ruel. « Pour aimer quelqu'un, parfois, il faut devenir un étranger. » Ici Marthe Saint-Laurent qui vous dit à la semaine prochaine.